On va prendre un texte qui est un petit peu long. Donc, voilà, on va lire ensemble d'abord. C'est l'histoire de Déborah en Juges 4 et une partie du chapitre 5. Donc, je vous propose d'ouvrir nos Bibles en Juges chapitre 4. Et puis, on va lire parce que c'est, bon, pas forcément un passage qu'on a lu hier. Donc, on va commencer par le lire ou le relire ensemble. Donc, Juges 4 en commençant au verset 1. Donc, Juges 4, et je commence au verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosheth-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kishon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh, 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsaanim, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Harosheth-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent qui sonne tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Ne marche-t-il pas devant toi, pardon? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harosheth-Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber le Kénien. Et la fin du chapitre 4, on voit en fait que cette femme, Jaël, accueille Sisera et en fait va le tuer et va accomplir la prophétie de Déborah. C'est entre une femme que Sisera, le général, tombe. Donc, verset 24, on lit « Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient examiné Jabin, roi de Canaan. » Et ensuite, on va lire encore quelques versets du chapitre 5 qui éclairent ce qui s'est passé au chapitre 4. Donc, Juges 5, versets 1 à 15. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levée, moi Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes, on ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 000 en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel, vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite, marcha Benjamin parmi ta troupe de Makir vers des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issacar furent avec Déborah et Issacar suivit Barak et fut envoyé sur ses pas dans la vallée près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Et encore versets 20 et 22, 20 à 22, pardon. Des cieux ont combattu, de leurs sentiers les étoiles combattirent contre Sisera, le torrent de Kisson les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kisson, mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Et on voit enfin en conclusion verset 31, le pays fut en repos pendant 40 ans. Voilà, donc peut-être d'abord quelques éléments un peu de cadrage, parce que c'est une période très particulière de l'histoire d'Israël. Donc c'est le moment des juges, et après la conquête de Canaan à la suite de la sortie d'Égypte et de l'entrée en Canaan. Et c'est une période où on voit déjà la désobéissance des Israélites qui auraient dû chasser les habitants de Canaan entièrement et qui se sont contentés en fait de les soumettre à un tribut. Donc ils les ont laissés dans le pays en leur demandant simplement de payer une certaine somme tous les ans. On le voit en Juges chapitre 1, versets 27 à 35. Et en réalité, ce qui devait arriver est arrivé et Dieu les avait prévenus, c'est que en laissant les Cananéens dans le pays, ils ont eu tendance à se tourner vers les divinités également des Cananéens et donc ils ont commencé à abandonner Dieu pour servir les divinités des peuples qui les entourent. On voit aussi en Juges 2, versets 11 à 13. Et c'est une période qui est particulièrement troublée, qui est marquée par beaucoup de corruption. À un moment, on voit même une guerre civile entre les Israélites. Et en même temps, c'est une période où, par moment, les Hébreux se sentent tellement opprimés qu'ils reviennent à Dieu. Et à chaque fois, Dieu les entend et Dieu intervient et Dieu les délivre. On le voit en particulier en Juges 2, verset 18, qui est un petit peu un résumé du livre, qui parle de la délivrance que Dieu amène à chaque moment. Et en même temps, un des soucis qu'on voit dans ce passage et dans ce livre des Juges, c'est que les hommes ne prennent pas toujours toute la place qu'ils devraient prendre. Alors, on voit dans ce contexte très très particulier qui est un contexte où le peuple ne marche pas de façon pieuse et de façon saine devant Dieu. Déborah qui est présentée et c'est intéressant de voir la façon dont elle est présentée et surtout l'ordre dans lequel les choses sont dites au verset 4 et au verset 4 quand on a la présentation de Déborah. Donc c'est la première fois qu'on nous parle de cette femme dans le livre des Juges, dans la parole. Et l'ordre est très intéressant parce qu'on voit qu'il est dit d'abord qu'elle est prophétesse. Et donc, la première chose qui est mise en avant, en réalité, c'est sa relation avec Dieu. C'est sa relation par rapport à Dieu. Il y a eu d'autres exemples de femmes prophètes avant et après elle. Prophète en hébreu, c'est Nabi, celui qui annonce. Et donc, plus précisément celui qui parle de la part de Dieu, notamment pour encourager le peuple à la fidélité, pour l'avertir, pour l'aider à marcher avec Dieu. Et on voit que c'est notamment une réponse à une crainte du peuple. Au moment où Dieu a donné la loi sur le Sinaï, on voit que le peuple a peur et il dit à Moïse « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. » En fait, le peuple a peur de la présence de Dieu, il a peur que Dieu lui parle directement et il demande d'une certaine façon à avoir un intermédiaire qui est d'abord Moïse et puis Dieu donne aussi d'autres prophètes aussi. Et on voit Myriam en Exode 15-20 ou également la femme d'Ésaïe en Ésaïe 8:3. On voit quelques femmes qui sont prophètes en Israël, mais en tout cas, c'est d'abord ça qui est indiqué, et donc c'est dans la définition de son identité, sa relation par rapport à Dieu. Et puis ensuite, il est dit qu'elle était femme de Lapidote, et donc la deuxième chose qui est indiquée, c'est sa relation par rapport à son mari. Bon, on ne sait pas grand-chose de Lapidote, c'est-à-dire son nom veut dire torche, donc en principe qui apporte la lumière, mais on voit qu'elle est femme de Lapidote et définie comme femme de Lapidote avant qu'on dise qu'elle est juge en Israël. Donc, dans l'ordre, c'est vraiment d'abord qui elle est par rapport à Dieu, ensuite qui elle est par rapport à son mari, et ensuite seulement on dit qu'elle juge en Israël. Et donc ensuite seulement en troisième lieu, ce sont ces fonctions qui sont données. Et les juges avaient été institués par Moïse, on le voit en particulier en Exode 18, versets 13 à 26, pour trancher les litiges qui pouvaient survenir entre les personnes du peuple d'Israël, pour pouvoir à chaque fois appliquer la loi qui avait été donnée à Moïse, la loi de Dieu, et trancher les différends. Et les affaires les plus difficiles à l'époque restaient soumises à Moïse. Donc il y avait un certain nombre de personnes qui exerçaient des fonctions de juge. Et puis si c'était des cas trop complexes, c'était Moïse lui-même qui les tranchait. Et dans la loi, il était prévu qu'il y ait des juges établis dans toutes les villes appartenant aux différentes tribus. On le voit en Deutéronome 16, 18. Il devait, par exemple, enquêter en cas de faux témoignage, enquêter en cas de meurtre, punir les coupables. Voilà, ils avaient tranché les litiges quand des gens étaient en désaccord sur quelque chose. Mais quand c'était un cas trop difficile, il fallait aller au lieu qui avait été choisi par Dieu pour qu'il y ait sa présence avec l'Arche de l'Alliance, c'est-à-dire à l'époque Silo, puis ensuite ça a été Jérusalem. Et donc là, c'était les sacrificateurs qui devaient trancher la question. Mais par délégation, dans tout le pays, il devait y avoir des juges pour trancher les litiges qui pouvaient l'être à leur niveau. Et dans le livre des juges, ce terme est également utilisé pour parler des libérateurs suscités par Dieu, pour diriger le soulèvement d'Israël contre les ennemis qui les oppriment. Et ce sont des juges qui sont à la fois les chefs civils et militaires. Mais là, ce n'est pas exactement la situation de Déborah. On voit en particulier qu'elle n'entre pas d'être chef de guerre, c'est son rôle pour trancher les litiges qui est expliqué quand on voit qu'elle est juge, puisqu'il est dit ensuite que les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle est juge. Mais en tout cas, dans ce verset 4, on voit déjà comment son identité est définie. Son identité est d'abord en Dieu et par rapport à Dieu, ensuite par rapport à son mari, et en dernier lieu, même si c'est inhabituel dans ce contexte, c'est par rapport à ses fonctions. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, j'ai un souci sur mon ordinateur.
Oui, sans problème, Pascal.
Bon, pardon. Alors, je vais peut-être juste couper la vidéo quelques instants, parce que je crois que j'ai un tout petit peu moins de réseau. Et puis, je la remets dès que ça va mieux. Voilà. Et puis, alors, juste aussi pour poser un petit peu le cadre, parce que le texte est un petit peu long, je vous rappelle peut-être un petit peu le déroulement de tout ce qui se passe dans ce passage. Donc, on est dans une situation où les Israélites se sont éloignés de Dieu. Ils sont opprimés par les Cananéens. Il reste un roi cananéen qui continue de régner au nord d'Israël. Et cette oppression dure pendant 20 ans et elle est particulièrement dure. Il est dit qu'il est parlé de violence de cette oppression et les Cananéens ont une supériorité militaire qui est très importante, notamment parce qu'ils disposent de 900 chars de fer avec des chevaux, alors que les Israélites n'ont pas de chevaux et n'ont pas de chars. Et il est même dit qu'il n'y a plus d'armes. On le voit au chapitre 5, il n'y a plus d'armes quasiment en Israël. Et sur 40 000 hommes, on a du mal à trouver une arme. Et donc, ils sont dans une situation très difficile. Et on voit que ça conduit les Israélites à revenir à Dieu, alors qu'ils étaient allés adorer d'autres divinités. Et donc, À ce moment-là, Déborah fait appeler Barak et lui demande de rassembler 10 000 hommes sur un mont qui s'appelle le mont Tabor, qui est à 430 mètres d'altitude, un petit peu à la limite entre le territoire de plusieurs tribus, Nephtali, Zabulon et Issacar. Et en fait, en faisant monter 10 000 hommes à cet endroit, ça permet de surplomber l'adversaire sans risque, parce qu'en fait, avec les chars, c'est facile de tenir les plaines, mais on ne fait pas monter des chars sur une montagne. Et donc, ils peuvent rassembler des hommes à ce moment-là sans risque, mais de façon très visible. Et donc, ça peut être vu comme une provocation par l'ennemi, par les Cananéens. Alors, Barak écoute Déborah, manifeste quand même une petite réticence et du coup lui demande de venir avec lui. Déborah lui dit d'accord, mais avec une conséquence, c'est que ça n'est pas lui qui aura la gloire sur le général ennemi. C'est pas lui qui aura la victoire. Cette victoire sera là d'ailleurs. Barak imagine que ce sera Déborah elle-même. En fait, cette femme, c'est pas Déborah. Ce sera une autre femme, c'est Jaël, qui va tuer le général ennemi. Barak suit ce qui lui est recommandé. Il lève l'armée. Donc, il réunit 10 000 hommes sur le mont Tabor. Et ce qui devait arriver, ce qui était prévisible, arrive. C'est que Sisera, le général ennemi, le réalise. Et du coup, il réunit toute l'armée cananéenne et tous les chars à proximité. Et il se trouve que c'est près du torrent de Kisson, donc près d'un torrent. Les Israélites attaquent. Ils ont une armée qui est beaucoup moins forte, mais à ce moment-là, il y a une intervention divine. Et en fait, c'est au chapitre 5 qu'on le voit, au verset 4 et 5 du chapitre 5. Au verset 4 et 5 du chapitre 5, on lit que les nuées se fondent en eau et que les montagnes s'ébranlent devant l'Éternel. Donc il est parlé d'orages très violents avec peut-être même des éboulements de terrain. Et au verset 20 à 22 du chapitre 5, on lit aussi « Des cieux ont combattu, le torrent de Kisson les a entraînés ». Donc ce qui apparaît dans le cantique ensuite, c'est qu'il y a eu de violents orages. C'est certainement hors saison, parce que sinon le général Sisera n'aurait pas amené ses chars à cet endroit-là. Donc, qui ont pris l'armée de Canaan par surprise, qui ont fait déborder le torrent de Kisson et qui ont conduit à l'embourbement des chars. Donc, ce qui était un avantage pour les Cananéens d'avoir une armée avec beaucoup de chars et de chevaux, en fait, est devenu un handicap et a permis aux Israélites de l'emporter. Alors, ils ont dû se battre quand même. Mais ils n'auraient jamais pu avoir la victoire s'il n'y avait pas eu cette intervention miraculeuse de Dieu par ces orages très violents et ce torrent qui est devenu un flot qui les a entraînés. Et Sisera est conduit à quitter son char, en fait, puisque lui, vraisemblablement, était dans un char embourbé et il s'enfuit à pied. Et on voit ensuite qu'il se réfugie dans la tente d'un Kénien, c'est un descendant du beau-père de Moïse, et il va dans la tente d'une femme, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas à faire, et il est tué par cette femme. Donc voilà, toute l'histoire de Jaël, ce serait encore une autre histoire, et on pourrait y consacrer aussi une étude, donc je mets de côté, mais toujours est-il que... Sisera, le général de l'armée de Canaan, est tué, accomplissant ainsi la parole qui a été donnée à Déborah. Alors, bon, ça c'est pour rappeler un petit peu l'histoire. Et donc maintenant, on va rentrer plus dans la façon dont Déborah a agi et ce qu'on peut voir de son caractère et de la façon dont elle est intervenue dans cette situation au travers de ce qui nous est dit à la fois au chapitre 4 et au chapitre 5. Alors, si on essaye de voir les caractéristiques de Déborah, je crois que la première qu'on peut noter, par déduction en tout cas, c'est que c'est quelqu'un qui a dû étudier le Pentateuque. À l'époque, les seules écritures qui existaient, c'était le Pentateuque, donné par Dieu à Moïse, donc avec la Genèse, l'Exode et toute la loi. Mais dans la mesure où elle est amenée à juger le peuple, il fallait en réalité qu'elle tranche les litiges selon la loi, de Moïse, selon tout le Pentateuque. Et il fallait qu'elle connaisse bien la loi pour pouvoir l'appliquer et trancher les litiges qui étaient portés devant elle. Donc c'est quelqu'un qui connaît le Pentateuque, qui a dû l'étudier de façon approfondie. La deuxième chose qu'on peut relever, alors ça à partir du chapitre 5 surtout, c'est que c'est quelqu'un qui fait un constat objectif et qui a une vision assez réaliste de la situation. D'abord, elle voit la situation en Israël, en particulier au verset 6 du chapitre 5, elle voit que les routes ne sont plus sûres pour voyager. En fait, les gens n'osent plus prendre les routes pour aller d'une ville à l'autre parce qu'ils ont peur de l'ennemi qui est aux portes des villes. Au verset 7, alors là, ça dépend un petit peu des traductions et des versions que vous avez. Dans la seconde 1910, il est dit « les chefs étaient sans force ». Dans d'autres versions, il est dit que les villes ouvertes étaient délaissées. Voilà, donc les deux traductions en français sont possibles et les deux peuvent correspondre au contexte. En tout cas, elle voit la situation du pays où, en tout cas, il y a des il n'y a plus la protection que donne normalement l'autorité. Et puis au verset 8, fin du verset 8 du chapitre 5, il est dit également qu'il n'y avait plus d'armes. Voilà, donc elle fait ce constat, elle voit la situation du pays. Et elle a un constat juste, également objectif, sur l'origine de la situation. On le voit au début du verset 8, le peuple s'était éloigné de Dieu et s'était tourné vers des idoles, et elle sait pertinemment que la raison pour laquelle le pays est dans cet état, c'est parce que le peuple s'est éloigné de Dieu. Donc son constat, il est juste. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi de Déborah, le troisième point, c'est qu'elle a un cœur pour son peuple. Bon, là aussi, on le voit au chapitre 5, et notamment verset 7, il est dit « comme une mère en Israël ». Et c'est quelque chose qui, bon, au début, m'a un peu surprise quand je l'ai lu, et en même temps, je pense que ça montre sa compassion pour le peuple d'Israël. C'est pas quelqu'un qui est en train de se dire « Ah ben oui, ils récoltent ce qu'ils ont semé. De toute façon, Dieu avait dit que si le peuple s'éloignait et qu'il allait voir des idoles, il y aurait toutes les malédictions qui avaient été prononcées au moment de l'entrée en Canaan. » Et donc, elle n'est pas en train de se dire ça, elle n'est pas en train de réagir comme ça. Au contraire, elle est touchée profondément par ce qui se passe et profondément attristée dans son cœur par la situation de son peuple. Et je pensais juste au cœur de Jésus pour Jérusalem et pour les Israélites aussi en Matthieu 23, verset 37, quand Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ?» Et c'est un passage un peu particulier parce qu'on voit la miséricorde et une forme de tendresse dans le cœur de Jésus pour toutes les personnes auprès desquelles il est venu. Et voilà, c'est aussi ce cœur, je pense, qu'on peut voir en Déborah de compassion pour des personnes qui ont fait de mauvais choix, mais qui en souffrent. Et du coup, elle en voit les conséquences difficiles pour son peuple. Et au verset 9 aussi, elle dit « Mon cœur est au chef d'Israël ». Et « le cœur », c'est un terme très très large en hébreu qui désigne à la fois le cœur, l'âme, la pensée, le siège des émotions. Donc, elle est vraiment de tout son être, de tout son cœur, de toutes ses tripes avec les chefs d'Israël qui vont finalement quand même conduire le combat. Et donc je crois que c'est quelqu'un qui a un cœur pour son peuple et qui est ému par la situation, ému de la bonne façon par la situation qu'elle voit et que traverse le peuple et qu'elle traverse avec eux puisqu'elle fait partie de ce peuple. Le quatrième point qu'on peut voir au travers de ce passage, c'est que Déborah est à l'écoute de Dieu et elle sait reconnaître sa voix. Donc ça, c'est plutôt au chapitre 4. Donc il nous est dit qu'elle est prophétesse, donc quelqu'un qui écoute Dieu et qui retransmet aux autres ce que Dieu lui a dit. Et elle prend des risques parce que on voit qu'elle demande à Barak elle lui rappelle que il faut lever 10 000 hommes et honnêtement, par la vue, les Israélites sont plus faibles que l'armée de Canaan. Et donc, si elle se plante, honnêtement, elle peut être responsable de la mort de 10 000 hommes. Donc, c'est une foi qui va avoir des conséquences. C'est pas, voilà, elle n'imagine pas des choses comme ça en l'air. Et quand elle parle, c'est vraiment parce qu'elle a entendu quelque chose de Dieu et en prenant des risques. Et par ailleurs, si elle prophétise n'importe quoi, elle risque elle-même la mort, puisque en Deutéronome 18, versets 20 à 22, il est dit dans la loi que si quelqu'un se proclame prophète et dit quelque chose qui n'arrive pas, ça veut dire qu'il a parlé de son propre chef et non pas de la part de Dieu et qu'il mérite d'être mis à mort. Donc elle prend des risques parce que c'est quelqu'un qui a été à l'écoute de Dieu et qui sait reconnaître sa voix. Le point suivant, donc cinquième point, c'est qu'on voit ensuite qu'elle encourage Barak à remplir son rôle de chef de guerre et elle ne se substitue pas à lui. Et ça, c'est très intéressant aussi. Quand on regarde l'attitude de Déborah au verset 6, alors là aussi, ça dépend un petit peu des traductions, mais dans la seconde 1910, il est dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? En Darby aussi, c'est de cette façon-là que c'est tourné. Et ça semble rappeler un ordre que Barak connaît peut-être déjà. En tout cas, elle lui dit bien que voilà, c'est quelque chose que Dieu lui demande. Et au verset 7, ensuite, elle lui communique une vision de foi en lui disant que Dieu va attirer vers lui le général ennemi, Sisera. Et que Dieu va le livrer entre ses mains. Donc, elle essaye vraiment de lui communiquer une vision de foi sur ce que Dieu va faire. Et mon verset 9, elle accepte de l'accompagner, d'être à ses côtés, de l'aider, de l'encourager. Et puis, au verset 14, quand elle lui donne le top départ, elle l'encourage à nouveau en lui disant, l'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Et donc vraiment pour lui rappeler que c'est l'Éternel qui est devant lui, c'est Dieu qui va intervenir. Elle peut rien faire en fait. Elle a juste ses paroles, mais en soi ses paroles sont d'aucune utilité si c'est pas Dieu qui intervient. Donc elle essaye vraiment de lui communiquer cette vision de foi que c'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui va intervenir et que c'est Dieu qui va marcher devant lui. Et quand on voit Barak, il se comporte en chef de guerre et il fait le job. Au verset 10, c'est lui qui convoque les deux tribus pour mobiliser les hommes au combat. Au verset 14, on voit qu'après les avoir regroupés sur le mont Tabor, c'est lui qui les conduit pour descendre sur l'armée ennemie. Et au verset 16, c'est lui qui conduit l'armée pour poursuivre l'armée ennemie et la battre entièrement, avec juste cette particularité que le chef Sisera va s'enfuir à pied et va, dans un premier temps, en tout cas, échapper. Mais enfin, c'est pas Déborah qui convoque le peuple, c'est pas Déborah qui conduit l'armée. Elle encourage Barak pour qu'il puisse avoir lui aussi cette vision de foi et croire que Dieu va intervenir, mais c'est Barak qui fait les choses. C'est Barak qui mène les hommes, c'est Barak qui est le chef de guerre et c'est Barak qui gagne le combat sur l'armée ennemie. Et d'ailleurs, Déborah ne cherche pas non plus à vaincre elle-même Sisera. Bon, elle a prophétisé que la gloire n'en reviendrait pas à Barak parce qu'il a eu une crainte, mais c'est une autre femme qui est une femme qui n'est même pas israélite, c'est Jaël, qui va tuer finalement Sisera. Et quand on voit la liste des héros de la foi qui est donnée dans l'Épître aux Hébreux, en fait, c'est Barak qui est cité parmi les héros de la foi. C'est pas Déborah. Déborah, elle l'a vraiment encouragée a avancé dans son appel et Barak est cité parmi les héros de la foi et Hébreux nous communique le regard de Dieu sur les personnes et en Hébreux 11, 32, il n'est pas plus parlé des hésitations et des doutes de Barak. Il est vraiment un héros de la foi qui s'est emparé de ce que Dieu avait pour lui et qui a conduit le peuple à la victoire. Et puis, dernier point sur l'attitude de Déborah, c'est quelqu'un ensuite qui loue Dieu et qui loue Dieu avec Barak au chapitre 5. Son premier sujet de réjouissance, c'est que, en quelque sorte, l'ordre normal des choses a été rétabli. Alors là aussi, ça peut dépendre des versions et les traductions ne sont pas toujours exactement les mêmes, mais en version seconde, il est dit, des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Donc son premier sujet de joie, c'est de voir que, voilà, ceux qui devaient mener la bataille se sont mobilisés pour la bataille. Ensuite, on voit qu'elle rend gloire à Dieu. Au verset 4 et 5 et au verset 20, elle reconnaît l'intervention divine à l'origine de la victoire et elle la célèbre. Et en disant « Ô Éternel, quand tu sortis de Séir » ou alors encore « Des cieux ont combattu », elle met vraiment en avant, elle exalte l'intervention de Dieu. Et puis, on voit aussi au verset 10 et 11 qu'elle entraîne, elle cherche à entraîner tous les autres dans la louange. Elle invite tout le peuple à louer Dieu également. Et au verset 10, on voit qu'elle parle à la fois de ceux qui montent de blanches ânesses, donc c'est peut-être les riches, ceux qui marchent sur la route à pied, donc c'est peut-être ceux qui sont plus pauvres, et puis ceux qui ont pour siège des tapis, c'est peut-être les artisans, donc c'est de la classe moyenne. Donc elle essaye d'entraîner vraiment tout le monde à louer Dieu et à avoir un regard reconnaissant et avoir une attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc ça nous montre que Déborah a été utilisée par Dieu. Et en même temps, en ne cherchant pas à prendre une place qui n'était pas la sienne, mais qui était celle de Barak, mais vraiment à être une aide et à lui communiquer une vision de foi. Et du coup, si on essaye de l'appliquer pour nous aujourd'hui, simplement, je pense qu'il faut d'abord faire très attention parce que, en tant que femme, on peut soit, enfin, comment dire, tout est possible. Chacune de nous est importante et chacune de nous sa relation avec Dieu et peut être un encouragement pour les autres. Et une femme peut tout à la fois, enfin peut être spirituelle comme elle peut avoir un rôle négatif. On voit aussi des contre-exemples dans l'Ancien Testament. On voit Jézabel à partir de 1 Roi 16. On voit Athalie dans 2 Chroniques 22. Donc on a aussi des exemples de femmes qui jouent des rôles qui sont pas voilà qui sont source de beaucoup de souffrance et très négatif. Donc, on a une responsabilité et on doit être consciente de cette responsabilité. Et c'est voilà, on pourrait y consacrer beaucoup de temps, mais peut-être juste, on se souvient chacune qu'il y a un ordre, que Dieu a créé les choses avec un ordre. Il y a égalité entre l'homme et la femme, mais un ordre qui a été institué par Dieu. Et en fait, c'est un ordre qui existe à chaque fois qu'il y a plusieurs personnes. Et même dans la Trinité, Dieu a permis qu'il y ait un ordre. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Sur le fait qu'on peut être, il peut y avoir des fonctions différentes, il peut y avoir un ordre et une soumission et en même temps une égalité. On le voit en 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc, sous-entendu, il y a même un ordre entre le Père et le Fils. Et si la Bible nous dit ça par rapport à la relation entre le Père et le Fils, alors honnêtement, moi, j'ai aucun problème en tant que femme à reconnaître qu'il puisse y avoir un ordre en tant que l'homme et la femme. Et que ce soit l'Église ou que ce soit la famille, en fait, c'est un peu comme une équipe. Alors, je suis pas très sportive, donc vous me corrigez si je me trompe, mais c'est un peu comme si Dieu était l'entraîneur et que sur le terrain, Ben, il y avait les joueurs et il fallait un capitaine. Voilà. Et donc, en plus, le terme capitaine vient de tête en latin, comme c'est la même racine que chef. Donc, il peut y avoir un ordre et en même temps une égalité, et chacun a une égale valeur devant Dieu et une égale responsabilité devant Dieu, mais avec un ordre. Et il y a cet ordre, et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faudrait minimiser notre rôle. Chacun et chacune, nous avons une responsabilité. Et si on regarde par rapport à Déborah, je crois que notre première responsabilité en tant que femme, c'est d'abord d'étudier la parole. Voilà, c'est un trésor qui nous est donné pour connaître notre Dieu. Et ce trésor, il est là pour chacun, homme et femme. Et on a aussi une responsabilité en tant que femme de connaître la parole pour pouvoir la mettre en pratique et connaître notre Dieu. Et quand on repense au passage de Marthe et Marie en Luc 10, versets 38 à 42, on voit que Marie s'est assise au pied du Seigneur en écoutant sa parole. Je me suis aperçue tout récemment que j'avais tendance un peu à voir avec ma perspective du 21e siècle, et souvent en pensant qu'il faut pas être uniquement dans l'activisme, etc. Mais à l'époque de Jésus, il y a même une première chose, c'est que en fait, c'est révolutionnaire qu'il accepte qu'une femme s'assoie à ses pieds pour écouter son enseignement. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas que les femmes puissent être les disciples d'un maître. En fait, les femmes, c'était pas leur place tout simplement, et c'était pas correct qu'elles puissent écouter les paroles d'un maître. Ben, Jésus est intervenu en disant que si, elle avait besoin aussi d'être enseignée. Et donc, voilà, savoir que ben, c'est un privilège formidable de pouvoir étudier la parole, de pouvoir prendre des cours, de pouvoir de recevoir. Ensuite, je crois que ça doit nous conduire et nous motiver à entretenir notre relation avec Dieu et apprendre à reconnaître sa voix, parce que je crois que c'est indispensable si on veut pouvoir apporter quelque chose aux autres, de savoir connaître Christ comme notre bon berger. Et je pensais au verset en Jean 10, en particulier le verset 4, quand Jésus dit « Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix », ou au verset 27 « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Et c'est un défi, c'est vrai que c'est un défi d'apprendre à connaître la voix de Dieu. Et je suis sûre que chacune, on aurait des choses à s'apprendre les unes les autres sur la façon d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Ce que je me disais déjà à ce stade, mais on pourra en parler tout à l'heure, c'était essayer au maximum d'apprendre à connaître le caractère de Dieu par l'étude de sa parole écrite, et puis aussi, et en commençant par les petites choses, de temps en temps, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on peut avoir un peu une forme de pression sur notre cœur en ayant l'impression qu'il faut qu'on fasse, qu'il faut qu'on appelle quelqu'un, ou voilà, une petite chose. Et je crois que ça peut être le Saint-Esprit qui met ça sur notre cœur. Et donc, en apprenant à le faire et à suivre ce que Dieu nous montre dans les petites choses, on apprend, je crois, à connaître la voix de Dieu et à être à son écoute. Voilà, mais ça pourrait être l'occasion aussi d'heures d'enseignement, mais c'est juste quelques petites pensées. Ensuite, je pense que c'est important de demander à Dieu aussi son cœur pour les autres. Et si on connaît Jésus comme notre berger, si on connaît son cœur pour nous, je pense que de plus en plus, on va connaître aussi son cœur pour les autres. Et la compassion va nous conduire à être active, parce que la compassion va nous conduire à prier, va nous conduire à avoir un cœur pour avoir une parole d'encouragement quand c'est utile. Voilà, la compassion ne peut pas nous laisser oisive. Et on a vraiment besoin de toute façon que ce soit l'amour de Dieu qui nous motive, comme il est dit en 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous presse. Ensuite, je crois aussi qu'on peut demander à Dieu de nous donner une vision de foi, parce que c'est vrai que quelquefois, quand on voit la situation autour de nous, on peut avoir une forme de découragement, mais au contraire, si on veut pouvoir être une ouvrière pour le Seigneur, On a besoin de se tourner vers Dieu pour qu'il intervienne, quelquefois en étant à contre-courant de l'état d'esprit ambiant, mais en demandant à Dieu de nous donner sa vision de foi sur les choses, son regard sur les choses, et de se souvenir qu'il peut intervenir, il peut utiliser des situations même difficiles pour que les gens crient à lui, pour que les personnes se tournent vers lui. Donc vraiment lui demander sa vision de foi. Ensuite, être disponible pour encourager les autres dans leur appel et pour être une aide en leur communiquant également cette vision de foi. Et on sait que la femme a été créée comme une aide, on le voit en Genèse 2, 18, pour être une aide semblable à l'homme. Alors, c'est un mot qui peut être quelquefois mal compris. En tout cas, le terme d'aide n'a rien d'humiliant. C'est un mot qui est traduit aussi par aide ou par secours dans l'Ancien Testament et qui est utilisé aussi pour parler du secours de Dieu, par exemple dans les psaumes. Donc, être une aide, c'est un appel qui est très, très important aussi. Et dans le corps de Christ, il y a une forme d'interdépendance où chacun est appelé à être une aide pour l'autre et encourager, et on peut encourager par nos paroles, on peut encourager aussi par notre attitude. Et je pensais aussi à des personnes. Alors, moi je suis une femme, mais je pense que c'est indépendant de ça. Je sais que dans ma vie, il y a eu des choses que j'ai pu faire parce que j'ai vu d'autres, et notamment des sœurs, le faire avant moi. Là, j'ai pris une période de disponibilité pendant quelques mois, mais c'est vrai que j'ai vu d'abord d'autres sœurs, Marie-Hélène, Edwige, Corinne, qui ont arrêté de travailler pendant quelques mois, pendant une période, soit pour se former, ou même plus longtemps pour partir en mission. Et je sais que j'aurais pas pu prendre la décision que j'ai prise par rapport à mon travail si j'avais pas vu d'autres personnes, d'autres sœurs le faire avant moi, et que ça a été un encouragement en me montrant que c'était possible, en me donnant une vision de foi pour le faire à mon tour. Ou alors, je sais que quand il y a eu un moment plus jeune où j'avais un peu lutté avec Dieu par rapport au célibat, et il y avait une chose qui était restée un problème, parce que il se trouve que ma mère a eu un cancer à l'âge de 50 ans, et j'avais vu que c'était bien qu'elle ait un mari, des enfants pour l'aider dans cette situation, et je m'étais dit, c'était un peu un truc dans mon cœur, c'est Seigneur, ok, mais je veux pas être malade en étant toute seule. Et puis j'ai vu comment Ingrid a réagi dans la maladie qu'elle a vécue, alors qu'il n'y avait pas d'enfants pour venir la voir à l'hôpital, pas de mari, il y avait des membres de sa famille, mais je sais que ça fait un travail dans mon cœur et que ça me donne une vision de foi pour me dire que Dieu contrôle les choses et Dieu est présent et il est vivant et il interviendra et que je n'ai pas à m'inquiéter. Et voilà. Et donc je sais qu'on peut s'encourager les uns les autres dans le corps de Christ à la fois par des paroles de foi et par des attitudes de foi qui sont précieuses. Et qui font un travail, et c'est quelquefois un travail secret, un travail qui, voilà, parce qu'on n'en parle pas toujours, mais c'est vraiment des choses importantes, et il y a beaucoup d'exemples comme ça de personnes de l'Église, ou la façon d'évangéliser de Marie, je sais que pour moi c'est un encouragement, ça me donne une vision de foi pour témoigner aux autres et pour évangéliser dans la rue aussi. Voilà, il y a plein de personnes, je pourrais citer chaque personne et dire, il y a voilà tel et tel domaine où cette personne me communique une vision de foi pour ma vie, parce que je sais que j'ai été touchée par la façon dont elle a appliqué la parole, elle l'a mise en pratique et le résultat que ça a eu. Voilà, donc être un encouragement pour les autres dans leur appel, être une aide en communiquant cette vision de foi, et puis aussi entraîner les autres dans la louange. Alors de deux façons, par l'attitude de louange. Oui, il y a des personnes qui ont vraiment un don pour être reconnaissantes à Dieu, pour louer, pour nous emmener dans la louange. Et je remercie vraiment tous les chantres et toutes les chantres de l'Église. Et puis aussi, en choisissant les paroles des chants, les paroles des chants sont un enseignement. Là, on le voit dans le chant de Déborah et Barak. Les paroles sont pleines d'enseignements. Et choisir des chants aussi, je sais que ça prend du temps de choisir les bons chants avec des paroles qui sont vraiment édifiantes, qui vont vraiment nous décrire l'action de Dieu, le cœur de Dieu. C'est vraiment aussi une façon d'édifier le corps de Christ. Voilà. Et On peut prendre des initiatives, mais de la bonne façon, avec une attitude soumise à Dieu, soumise aux autorités dans l'Église. Déborah, ça veut dire abeille en hébreu, et c'est un mot qui est intéressant parce que ça veut dire qu'elle peut produire. Enfin, ça sous-entend un peu l'image de quelqu'un qui produit du miel, donc qui produit de bonnes choses pour les autres. Et Dieu avait dit qu'Israël serait un pays où coule le lait et le miel. Donc Déborah a utilisé par Dieu pour apporter ce miel dans le pays et cette douceur dans une situation difficile. Et alors, récemment, je posais une question à Pasteur Michel, alors je vous en fais part. Je disais, mais en tant que femme, dans quelle mesure est-ce qu'on peut prendre des initiatives? Dans quelle mesure est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Si on voit un besoin, est-ce que c'est pas notre rôle ou... Et en fait, ce qu'il disait, c'est que il est important qu'il y ait une protection spirituelle, qu'il y ait une bonne attitude de cœur, qu'on puisse le faire dans une attitude de soumission. Mais c'est pas parce qu'on est une femme qu'on devrait attendre et être dans une attitude passive. Par exemple, si un jour une personne a à cœur de commencer un ministère pour apporter des choses aux personnes âgées, ça peut être une femme qui prend cette initiative, mais en ayant la protection d'un pasteur et puis en le faisant dans une bonne attitude. Après, ça dépend des ministères. Par exemple, s'il s'agit d'aller voir les sans-abri, là, c'est pas possible parce que c'est beaucoup d'hommes et avec des situations très compliquées, et donc c'est pas approprié. Mais face à certaines choses, on peut aussi voir un besoin et puis proposer ou commencer quelque chose si c'est dans une bonne attitude voilà, une bonne attitude de cœur en étant couverte spirituellement. Mais en tout cas, on n'a pas à rester les bras croisés en se disant, oh ben, quel dommage qu'il n'y ait pas des hommes qui fassent ceci ou qui fassent cela. On a une responsabilité d'être spirituel en se nourrissant de la parole, en entretenant notre relation avec Dieu, en encourageant les autres. Et voilà, en étant disponible pour ce que Dieu nous demande, et Dieu peut nous utiliser. Et c'est pour le bénéfice du corps de Christ si on le fait dans une bonne attitude de cœur.